selon le titre qui mérite, dont la première partie mérite quand même d'être expliquée, le droit et la réalité vivante. La formule réalité vivante vient de Jacques Guérin. Dans un article intitulé L'utile et le juste dans les contrats, il dit dans sa conclusion pour affirmer que la réalité vivante et complexe des relations contractuelles se laisse difficilement enfermer dans des concepts. Cette référence est tirée d'un article de Vincent Gautry, mon directeur, pour affirmer que l'une des fonctions fondamentales du droit, c'est de coller à la réalité des choses, cherchant au mieux à correspondre à une fidélité descriptive satisfaisante entre le droit et la réalité vivante qu'il tente d'encadrer. Dans les deux exemples que j'ai choisis, qui sont par pure coïncidence mon sujet de mémoire et les projets de recherche que je mène avec Karim Benyekles, on va voir d'abord c'est quoi la réalité vivante. Et la réalité vivante dont le droit doit se saisir, puis en fait, comment il l'appréhende. Abordons d'abord la question de la reconnaissance de l'écrit électronique et de son incorporation dans le droit civil, un droit civil dont les racines puisent jusqu'à Rome. En fait, nous verrons que ça n'allait pas nécessairement de soi. L'essentiel des travaux sur la reconnaissance de l'écrit électronique s'est fait dans les forums internationaux, par exemple, le Conseil de l'Europe avec une recommandation de 1981 sur l'harmonisation des législations en matière d'exigence d'un écrit, mais surtout de la CNUTI, la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international, avec ces deux lois types, notamment sur le commerce électronique, sur les signatures électroniques, et en fait, surtout l'outil le plus important, la Convention 2005 sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux. De manière générale, l'action de la CNUTI vise l'adoption d'un droit qui facilite le commerce international, puisque certains facteurs, comme l'absence de législation prévisible ou l'existence de lois obsolètes, difficilement applicables à la pratique commerciale, peuvent entraver le commerce international. Cette pratique commerciale internationale, c'est la réalité vivante de l'écrit électronique. C'est là qu'est né l'écrit électronique. En effet, la CNUTI suit de près l'évolution des problématiques en droit commercial international. À cet égard, d'ailleurs, ce n'est pas anodin de constater que le groupe de travail de la CNUTI, qui s'occupe maintenant du commerce électronique, a été successivement le groupe de travail, a porté le titre de groupe de travail sur les effets de commerce internationaux, ensuite sur les paiements internationaux et sur les échanges de données informatisées, ce qu'on appelle l'EDI, qui est le prédécesseur de l'écrit électronique. L'EDI, ça impliquait la mise en place d'un cadre technique et juridique contractuel des cadres très lourds qui limitait l'usage de facto à des partenaires commerciaux de longue date et d'une certaine envergure. Si l'EDI posait de sérieuses questions juridiques dans le temps, il n'en restait pas moins une technologie relativement bien cernée avec des protocoles de communication normés via des réseaux privés entre des acteurs commerciaux qui se connaissent. Maintenant, les communications électroniques se sont depuis diversifiées. Elles empruntent des réseaux ouverts, utilisent une gamme de techniques toujours plus vaste et peuvent mettre en communication deux quidam pour une transaction unique et ponctuelle. Bref, les communications électroniques se démocratisant et les façons de faire se démultipliant, le droit se devait développer une approche pour rattraper une réalité galopante. Comme nous l'avons vu, la mission de la CNUTI, c'est de faciliter le commerce international. Il fallait donc limiter les incertitudes juridiques liées à l'utilisation des communications électroniques pour assurer la sécurité juridique de ces transactions. C'est une motivation similaire qui a mené à l'adoption en 1958 de la Convention de New York sur les sentences arbitrales étrangères. Toujours dans la perspective de lever un obstacle au développement du commerce international, un écrit sous forme électronique ne devait pas être privé de ses effets juridiques pour la seule raison qu'il est sous forme électronique. C'est de cette non-discrimination dont il est question avec le principe dit de neutralité technologique pour éviter une dualité de régime entre l'écrit papier et l'écrit électronique. L'électronique devait se fondre dans la législation actuelle. La notion même d'écrit pose problème. La loi ne le définit pas. Il y a peut-être juste le code de procédure civile allemand qui le fait. Les différentes définitions de la doctrine illustrent bien la difficulté d'englober l'écrit électronique. Voici d'ailleurs quelques définitions doctrinales et jurisprudentielles qui illustrent une conception rigide de l'écrit qui est très liée à un support tangible. dans le Ballantine's Law Dictionary, on dit que l'écrit est anything which is written, legible characters in pen or pencil, handwriting, typewriting or printing, the expression of ideas by visible letters. Aussi, et encore pire, it may be on paper, wood, stone or other. The general rule undoubtedly is that whenever a statute or usage requires writing, it must be made on paper or parchment, but it is not necessary that it be in ink. It may be in pencil. Donc, dans la doctrine française, on trouve aussi de façon classique que l'écrit est la représentation lisible du langage ou de la pensée au moyen de graphisme. La difficulté posée par les supports électroniques est soulignée par Hervé Crose. Il n'est pas aisé de dire jusqu'à quel degré de dématérialisation on peut aller sans perdre la qualification d'écrit. On a donc suggéré de redéfinir l'écrit comme par exemple l'expression de la parole ou de la pensée par des signes, ou comme l'expression du langage sous la forme de signes apposés sur un support. On se rapproche beaucoup de la notion de document utilisé dans les sciences de l'information, un domaine qui a beaucoup moins de difficultés que le droit de concevoir qu'un document puisse être sous forme électronique. Ceci étant, si la définition de l'écrit pose problème, le problème a été contourné. Très tôt, on a cerné que la difficulté juridique posée par l'électronique, c'est l'exigence de l'écrit, et non pas l'écrit lui-même. L'absence de définition de l'écrit s'expliquerait alors par l'absence de besoin de le définir. Et se poser la question « pourquoi un écrit est-il requis? » Ça mène à s'interroger sur la fonction que l'écrit remplit lorsqu'il est exigé par la loi. De là est née l'approche fonctionnelle, selon laquelle une communication électronique satisfait à l'exigence d'un écrit, pour peu qu'un certain critère d'équivalence fonctionnelle avec le papier soit rencontré. Cette approche fonctionnelle est corollaire au principe de neutralité technologique. Bon, tout n'étant pas simple et sans entrer dans le détail, lors de l'élaboration de la loi type sur le commerce électronique de 1996, la CNUTI a identifié pas moins de 11 fonctions de l'écrit, bien que certaines se recoupent. Elle a néanmoins retenu un critère selon lequel l'exigence de l'écrit est rencontrée pour peu que l'information contenue dans la communication électronique soit accessible pour être consultée ultérieurement. Ce critère établit un seuil très bas pour la reconnaissance de ce qu'est un écrit. La trace est effectivement le minimum, ce qui distingue le médium oral du médium écrit. Selon Robert Escarpi, face aux inconvénients de l'oralité, il n'est d'autre solution que de donner à la mémoire un support inerte. La variation d'énergie qui constitue le signe doit être fixée sous la forme d'une trace matérielle possédant une certaine stabilité. L'approche du législateur québécois est quelque peu différente toutefois. Elle emprunte beaucoup aux sciences de l'information. Un écrit, c'est d'abord un document qui est défini comme de l'information limitée, structurée, portée sur un support. Ce qui ressemble d'ailleurs à une des définitions qu'on a vues plus tôt. Pour être reconnu comme un écrit, ce document technologique doit voir son intégrité assurée. La fonction de l'écrit serait alors d'assurer l'intégrité de l'information qui est contenue, ce qui est un seuil bien plus élevé que la simple trace qui est seuil retenu par la loi type. Et accessoirement par la très 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 grande majorité de toutes les juridictions au monde qui ont choisi d'encadrer l'écrit électronique de cette façon. Maintenant, sur la cyberjustice, l'utilisation même du... on s'éloigne un peu de l'écrit électronique, mais il y a des recoupements qui vont se faire. L'utilisation même du terme cyberjustice, ça met en exergue le fait que le système judiciaire actuel n'est pas très cyber, pas très virtuel. En fait, il repose principalement sur la technologie papier et sur la présence physique des parties. La cyberjustice, c'est l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'univers de la résolution des différends. On a élaboré une définition de travail qui est volontairement très large. Ça couvre tant l'extrajudiciaire que le judiciaire. Extrajudiciaire étant, négociation assistée, la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Et le judiciaire, c'est tant le civil que le pénal. Et donc, c'est très vaste. La cyberjustice implique, donc, premièrement, la modélisation de la procédure dans toutes ses déclinaisons possibles. Et aussi la mise en réseau des divers acteurs de la justice. Par exemple, pour un dossier au criminel ou au pénal, ça implique la mise en réseau des forces policières, du procureur de la couronne, de l'administration judiciaire, de l'administration pénitentiaire, la commission des libérations conditionnelles, qui toutes ont un apport à un dossier particulier. Enfin, la cyberjustice propose d'aller plus loin que la simple transposition de la procédure du système papier et propose en fait de saisir les opportunités offertes par le nouveau médium électronique. En ce sens, elle permet la réingénierie de la procédure. Cette parenthèse terminologique pose la question, mais pourquoi la cyberjustice? C'est cette même question qui nous permet d'identifier la réalité vivante, une réalité d'une envergure bien plus considérable que pour l'écrit électronique. Nous vivons présentement à une époque charnière où s'opère un changement du médium dominant dans la société. Comme le faisait remarquer Pierre Lévy au séminaire État de droit et virtualité au mois d'octobre, nous vivons aujourd'hui à une époque où s'annonce une mutation de civilisation qui est probablement aussi importante que celle qui est liée à l'invention de l'écriture ou à l'invention de l'imprimerie. 50 ans après Gutenberg, on n'avait pas encore vu grand-chose. Et nous sommes aujourd'hui à peu près 50 ans après l'invention de l'ordinateur et on n'a pas encore vu grand-chose. On peut juste comparer l'ENIAC, un ordinateur d'environ 130 tonnes, avec un BlackBerry. Ça donne une idée. Donc, les communications dématérialisées sont de plus en plus communes. Pourtant, le monde judiciaire ne migre pas vers l'électronique au même rythme que le reste de la société. Certains vont même affirmer que les tribunaux ne peuvent continuer à être des îlots de papier dans un océan électronique. C'est la réalité vivante de la société avec laquelle le système judiciaire doit composer. Et le droit est parmi une des premières disciplines intéressées par son système judiciaire, en fait. Contrairement à l'écrit électronique, dont les contours sont désormais, avec les années, sont désormais bien dessinés, on est qu'au début de la cyberjustice. On voit des projets émerger un peu partout dans le monde, mais au plan théorique, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. On est encore à l'étape de l'identification des entraves, des ondes de friction, bref, des risques qui peuvent ralentir l'intégration des TI dans la justice, ou qui peuvent entraîner de fâcheuses conséquences si les TI sont mal utilisées, si on ne prévoit pas notre coût assez bien. Nous avons d'abord suggéré de définir le risque juridique comme la possibilité d'une atteinte aux notions juridiques affectées par le changement de réalité. On parle ici des droits fondamentaux, des valeurs et principes des systèmes judiciaires. Nous ne sommes pas en terrain tout à fait inconnu puisque la plupart de ces éléments-là ont déjà fait l'objet d'études ou de développement par les tribunaux ou par la doctrine et leurs critères d'appréciation sont sinon établis et à tout le moins identifiés. Une atteinte serait par exemple due à la rupture d'un état d'équilibre en différents droits, à la perte de repères due au changement de médium ou à des situations tout à fait nouvelles créées par le nouveau médium électronique. L'identification des risques se fait alors par une méthode élaborée par une équipe du CRDP dont Nicolas Vermès faisait partie, une méthode qui a été testée en laboratoire sur le système intégré d'information de justice du Québec, projet qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Cette méthode consiste à évaluer l'environnement d'information en fonction de ses caractéristiques techniques et à questionner à la lumière des critères d'appréciation d'un droit fondamental, par exemple de la présomption d'innocence. En fait, et enfin, sur un plan plus prospectif, comme je disais tantôt, sur le plan de la réingénierie de la procédure, la question c'est de savoir qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une dématérialisation. Le système judiciaire est par endroits inefficace parce qu'il demande des déplacements de papier et des déplacements de personnes physiques, alors qu'en fait, ce n'est que de l'information qui aurait intérêt à circuler. Ça coûte donc très cher, ça prend du temps, et ce sont deux composantes très, très importantes et très fréquemment ciblées lorsqu'on discute du problème de l'accessibilité de la justice. La cyberjustice peut promettre beaucoup sur le point de vue de l'accès à la justice, mais au niveau de la qualité de la justice, il faut toujours garder en tête que tout ne peut pas être dématérialisé. Donc, il faut étudier comment identifier les zones où le papier et la présence physique des parties sont toujours à préférer à une espèce d'ersatz électronique qui ne donnerait pas toute la richesse du contact humain de la justice. Et donc, tout ça, c'est de merveilleux pans de recherche qui s'ouvrent à nous. En conclusion, avec l'écrit électronique, on a isolé l'élément problématique pour l'analyser d'un point de vue juridique. L'exigence de l'écrit et le fait que cette notion soit particulièrement liée au papier, c'était porteur d'une incertitude juridique qui en limitait l'utilisation dans des communications électroniques au niveau du commerce international. On parle des années 80, par exemple. De nos jours, le commerce international est pratiquement synonyme de commerce électronique. Le droit n'était plus à l'unisson de la réalité qu'il se devait d'encadrer. Maintenant, au niveau de l'écrit, on peut dire que le droit a rattrapé une bonne partie de la réalité. La cyberjustice a créé une situation similaire, mais nettement plus complexe. Les éléments juridiques sont beaucoup plus nombreux et leur analyse nécessite souvent l'apport de disciplines autres que le droit, qui plus est avec la possibilité de recréer de la procédure et de modifier des liens entre acteurs et informations. Il faut s'assurer que tout ce qui est ainsi créé ou modifié respecte les exigences légales et constitutionnelles, de l'état de droit, bref, de repenser le droit procédural en conformité avec une construction subjective, cohérente et déclarée, pour reprendre les mots de Vincent Gautrin.